Donc aujourd'hui, je vous propose d'entamer ce qu'on appelait la deuxième période de l'œuvre de Nietzsche. Donc c'est une période qui s'étend depuis la publication de Humain trop humain jusqu'au Gai Savoir. Donc c'est Humain trop humain, c'est deux gros volumes. Ensuite, il y a Aurore et puis le Gai Savoir. Et c'est une période qui couvre à peu près de 1876 à 1882. Une période très difficile pour Nietzsche. Il écrit dans ses carnets, mais même dans ses œuvres publiées, il écrit que c'est une période de grande souffrance pour lui. Souffrance physique en raison de sa maladie et souffrance psychologique en raison de sa solitude, de son incompréhension par rapport aux autres. Et qui évolue, puisque si vous regardez ne fût-ce que les trois titres qui caractérisent cette période, bon, Humain trop humain, c'est évidemment le caractère limité, hein, limité des possibilités humaines qui l'accablent. Mais Aurore, c'est déjà l'annonce de quelque chose qui va luire, hein, de quelque chose qui va se lever. Et le Gai Savoir, c'est évidemment, on est arrivé à une autre forme de savoir, et on sent que il reprend en tout cas toute une volonté de mettre du plaisir et de la joie dans la connaissance. Ceci dit, je vais le faire remarquer, même aujourd'hui, même dans Humain trop humain, vous avez toujours, en dépit de toutes les difficultés, vous avez toujours chez lui cette idée que la connaissance est une joie. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, on va se concentrer aujourd'hui surtout sur des questions de connaissance, justement, d'épistémologie. Donc, que pouvons-nous connaître? Quelles sont les conditions de la connaissance? Et quelles sont surtout toutes les illusions de la connaissance contre lesquelles il faut lutter? La semaine prochaine, on en viendra plus à la question de la généalogie de la morale, hein, donc plus l'observation de d'où viennent les institutions morales, pourquoi a-t-on eu besoin de les instituer, donc est-ce qu'on peut reconstituer une genèse de ces institutions? Ça sera pour la semaine prochaine, mais ça va de pair dans la même période. Dans sa première période, donc dans les œuvres de jeunesse qu'on a déjà un petit peu parcourues les deux séances précédentes, Nietzsche a une conception de la science qui est un petit peu ironique, mais qui n'est pas extrêmement approfondie. Donc, ce qu'il reproche principalement à la science, c'est que le champ de ses préoccupations est trop étroit. C'est-à-dire, au lieu de se préoccuper des aspects les plus importants de la vie humaine, la science se préoccupe seulement de petites questions extrêmement pointues et spécialisées et qui n'apportent aucun enseignement sur la vie pratique, sur le fait de comment vivre, comment vivons-nous. Et donc, je vous fais une petite citation qui vient des considérations inactuelles. L'homme de science se comporte comme s'il était un des plus fiers désœuvrés du bonheur, comme si l'existence n'était pas une chose funeste et grave, mais un patrimoine garanti pour une durée éternelle. Donc l'homme de science se conduit comme s'il avait l'éternité devant lui. Il croit pouvoir se permettre de gaspiller une vie à élucider des problèmes qui, somme toute, ne devrait compter que pour quelqu'un qui serait assuré d'avoir l'éternité devant lui. Chaque pas en avant devrait lui remettre ses questions en mémoire. D'où venons-nous? Où allons-nous? À quoi bon vivre? Mais son âme s'échauffe à l'idée de sa tâche, que ce soit de compter les étamines d'une fleur ou de casser les roches au bord du chemin. C'est difficile. Vous voyez que la principale critique qui est faite à la science, c'est de ne pas s'interroger sur ces questions essentielles de l'être humain qui sont d'où venons-nous, où allons-nous, à quoi bon vivre. Et se pencher sur les étamines d'une fleur, comme fait le botaniste, ou sur les cailloux au bord du chemin, comme ferait un géologue, c'est certes intéressant, et alors il faut bien signaler qu'il n'y a pas de rejet de ce type de connaissances, mais simplement, Nietzsche se demande comment il est possible d'y consacrer toute sa vie, de ne faire que ça, et de laisser de côté les questions essentielles. Et il revient à la remarque que faisait Pascal, donc le philosophe du XVIIe siècle, Pascal, qui faisait remarquer que les hommes en général se précipitent dans des multiplicités d'activités, dans la vie mondaine, dans une vie la plus possible sans cesse occupée. Pourquoi ? Pour cacher leur angoisse profonde, justement, par rapport à leur existence. Et c'est ce que Pascal appelait le divertissement. On se divertit, c'est-à-dire on se détourne de ce qui nous angoisse et on se détourne des questions qu'on devrait se poser sur sa propre vie. Alors, sans compter que chez Pascal, il y a aussi une dimension religieuse. On se détourne aussi du salut qui devrait nous préoccuper plus que toute autre chose. Et donc, on se jette dans des activités. Et Nietzsche applique ça au savant. Il dit, mais c'est, voilà, le savant, quand il se précipite dans des occupations extrêmement précises et limitées, on pourrait se demander si c'est pas aussi pour ne pas devoir s'interroger sur des questions un petit peu plus existentielles et qui pourraient l'engager plus en tant qu'être humain. Donc à propos des études scientifiques, il faudrait toujours se demander à quoi bon étudier ceci, c'est-à-dire quel est le lien entre la compréhension que je vais avoir de tels phénomènes et ce que je peux apporter aux autres dimensions de la vie humaine. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que ça vaut la peine d'étudier ceci ou ça? Donc, dans quel but est-ce qu'on étudie finalement telle ou telle chose? Au minimum, s'interroger sur son but, si après c'est pour le confirmer, il n'y a pas de problème, mais au minimum, c'est de reposer la question, à quoi bon, quelle est la finalité de telle ou telle thématique scientifique. Et Nietzsche reconnaît des qualités aux savants, il reconnaît même des grandes qualités par rapport à tous les reproches qu'il adresse aux philosophes de son temps. Il reconnaît que le savant est particulièrement curieux, donc c'est une excellente qualité, qu'il est particulièrement honnête et simple, donc contrairement à la grandiloquence que prennent parfois les philosophes. Mais il dit que tout ça est souvent compensé par une soumission à toute une série d'impératifs de l'institution, de la vie des collègues et de la hiérarchie. Une soumission donc à des tas de contraintes qui font que sa pensée n'est pas libre. Et alors il fait aussi remarquer, et ça c'est, j'en termine avec ça sur cette première période, mais je trouve que c'est extraordinairement actuel, il fait remarquer que la science est déjà soumise à un véritable productivisme. On lui demande de produire toujours plus et plus vite. Et alors je vous lis la citation qui est assez drôle, je trouve. Il dit « Plus vous voudrez accélérer les progrès de la science, plus vite vous anéantirez la science. De même que dépérit la poule que l'on contraint artificiellement à pondre trop vite ses œufs. Regardez donc les savants, des poules épuisées. Vraiment, ce ne sont pas là des natures harmonieuses. Ils savent seulement cacter plus souvent qu'autrefois parce qu'ils pondent plus d'œufs. Il est vrai que ces œufs sont de plus en plus petits. Encore que les livres que font les savants sont de plus en plus gros. Moi, je trouve que c'est une ironie qui convient assez bien. Bon, c'est bien à certains travers de la production scientifique de notre époque aussi. Mais donc dans cette seconde période, qui est plus intéressante du point de vue épistémologique et qui commence avec humain trop humain, Nietzsche au contraire va valoriser la science pour sa méthode, pour sa rigueur, pour sa rationalité, et il rappelle que la rationalité, c'est ce qui caractérise notre culture depuis la Grèce et c'est ce qu'il faut valoriser. C'est la conception rationnelle du monde est pour lui une conception qui est nettement en progrès par rapport à toutes les autres. Donc c'est vraiment une affirmation de la rationalité et avec aussi une allusion au siècle des Lumières, aux philosophes des Lumières. C'est clair qu'il y a une période là d'engouement pour ce type de recherche. Et la science notamment doit être mise en œuvre pour contrer les illusions de la métaphysique. Alors je vous rappelle que Nietzsche utilisait précédemment le terme métaphysique pour désigner tout ce qui dans l'homme échappe à sa simple nature biologique, à la nature animale. C'est vraiment métaphysique au sens de au-delà du physique, hein, au-delà de ce qui est simplement physique ou biologique. Et ça pouvait être, selon ce que la tradition nous avait transmis, ça pouvait être l'attitude morale par exemple, hein, comme chez Kant, l'attitude morale, l'impératif moral est pour Kant quelque chose qui nous met au-dessus de la nature biologique. Donc c'est quelque chose de métaphysique dans ce sens. Ça peut être aussi le fait religieux. La religion aussi est censée nous mettre au-delà de la nature biologique. Ça peut être aussi, pour Nietzsche, l'art. Hein, l'art, pour lui, était quelque chose qui nous mettait dans une autre condition qu'une condition simplement naturelle, biologique. Mais à partir de maintenant, il va utiliser le mot métaphysique de manière uniquement péjorative. Péjorative est pour dénoncer l'illusion que constitue la construction d'un autre monde à côté de ce monde-ci. Et ce qu'il appelle un arrière-monde, un monde qui se trouve derrière le monde dont nous avons l'expérience, donc derrière le monde des phénomènes. Et cette... Alors, il faut bien préciser que ce n'est pas le seul sens du terme métaphysique dans l'histoire de la philosophie. Dans l'histoire de la philosophie, on a appelé métaphysique bien d'autres choses. Ce n'est pas du tout la même chose chez Aristote, ou chez Thomas d'Aquin, ou chez Heidegger, qui à son tour, donc dans la première moitié du XXe siècle, va faire une critique de la métaphysique, ce sera une toute autre critique. Donc attention à ce terme, c'est un terme qui veut dire énormément de choses différentes. Mais donc, en tant qu'il est la cible de Nietzsche, il signifie la construction d'arrière-monde. Il l'appellera aussi plus tard l'idéalisme. Et de fait, cette construction d'arrière-monde, elle a été faite dans l'histoire de la philosophie, lui il la repère, sous deux formes principales, la forme platonicienne et la forme kantienne. La forme platonicienne, c'est ce qu'on appelle couramment le monde des idées. Pourquoi est-ce que Platon érige un monde des idées? Qu'est-ce que ça veut dire? Platon pense qu'il y a certaines notions générales que nous avons tous, qui ne peuvent pas nous être venus seulement de l'expérience. Parce que ce qui nous vient seulement de l'expérience, donc de l'observation des faits humains, en l'occurrence plutôt humains que naturels, c'est strictement relatif à nous. C'est-à-dire, chacun peut faire une expérience différente et chacun aura une idée légèrement différente de la même notion. Il suffit de voir entre nous dans une conversation comment nous comprenons un certain terme, surtout un terme un peu abstrait, un peu philosophique, et nous rendons compte tout de suite que nous avons des définitions ne fût-ce que légèrement différentes, nous ne concevons pas exactement les choses de la même manière. Bon, si vous prenez un terme comme l'injustice par exemple, il y a quasiment autant de conceptions de la justice que d'individus. Et ça dérange profondément Platon. Parce que justement, Platon, il veut qu'il existe des absolus, en tout cas dans certains domaines, et principalement dans le domaine moral. Il veut qu'il y ait, justement pour les valeurs morales, des notions qui ne dépendent pas de la manière dont les individus ou les cultures différentes vont les concevoir de manière différente. Donc, ce relativisme des valeurs morales, il le constate, il ne peut pas faire autre chose que le constater, il existe bien entendu, mais il veut qu'il existe aussi, à côté de ce relativisme, des valeurs absolues. Et donc ces valeurs absolues, elles ne dépendent pas de notre pensée, elles ne dépendent pas de nos désirs. Elles existent en elles-mêmes, par conséquent. Ce n'est pas nous qui les construisons. Parce que nous, quand nous construisons des notions, nous le faisons de manière relative à nous, donc indissociablement de notre histoire, de notre culture. Si on veut que ces valeurs, que ces notions soient absolues, il faut qu'elles soient indépendantes de chaque individu et de chaque culture. Il faut qu'elles soient une et toujours les mêmes pour quiconque les pense. Donc, elles doivent exister indépendamment de notre pensée. Elles ne peuvent pas être des constructions de notre esprit. Elles doivent exister en elles-mêmes, mais de toute éternité, et bien avant même les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il érige une autre réalité, c'est effectivement une autre réalité, qui n'est pas du tout à comprendre dans les mêmes dimensions que la réalité phénoménale. Ce n'est pas matériel, par exemple, ça n'existe pas dans des corps, dans des matières. C'est une toute autre réalité, alors ce n'est pas vraiment un autre monde, il ne faut pas le voir comme deux mondes, ce n'est pas nécessairement dans le ciel, ça ne peut pas être localisé, puisque ce n'est pas une matière. Mais c'est une autre réalité qui, effectivement, est à découvrir derrière la réalité phénoménale, et à laquelle, pour Platon, on peut accéder par la pensée, par un certain exercice de la pensée, ou du moins en partie. Donc là, on voit bien que Nietzsche a raison de voir là une construction d'un autre monde ou d'une autre réalité à côté de celle des phénomènes. Il dénonce ça comme de l'idéalisme. Ben oui, c'est effectivement ce que Platon appelle des idées, des notions générales qui existent en soi, en elles-mêmes, indépendamment de nous, et identiquement de toute éternité. Alors, l'autre manière donc, de tomber dans l'illusion métaphysique d'un arrière-monde ou dans un idéalisme, c'est la manière kantienne. Et là, on avait déjà vu que Nietzsche adoptait en fait la distinction kantienne entre phénomène et chose en soi. Il continue à la maintenir, c'est-à-dire il lui semble tout à fait clair que il y a quelque chose, disons, on peut dire que d'une certaine manière les choses sont en elles-mêmes, par définition, inaccessibles à notre compréhension. C'est-à-dire que ce que nous comprenons, c'est toujours ce qui se manifeste à nous, ce que nous pouvons saisir, donc ce qui correspond à nos facultés. Mais il est indéniable que, par ailleurs, la chose est aussi quelque chose en elle-même que nous ne pouvons pas savoir. Donc il accepte que nous ne pouvons pas savoir ce que chaque chose est en soi. Mais ce qu'il reproche à Kant, c'est de s'en servir lui aussi pour une justification morale. C'est-à-dire que Kant aussi utilise l'idée, la notion d'idée, comme une sorte de régulateur de la morale, comme s'il existait effectivement une idée absolue qui soit un guide pour la morale, et qui soit le guide de l'impératif catégorique moral. Donc, Nietzsche, néanmoins, donc, alors qu'il évacue la chose en soi dans sa raison théorique, dans la critique de la raison pure théorique, il évacue la chose en soi pour se concentrer sur le phénomène, et là, Nietzsche l'approuve, mais il la retrouve en fait dans la raison pratique, c'est-à-dire dans la raison éthique, parce qu'il en a besoin pour garantir une morale. Donc c'est ça le reproche. C'est ça le reproche d'idéalisme. Et ces deux types de transcendance, en fait, donc ce sont des transcendances, ce sont des choses qui échappent au monde des phénomènes, au monde immanent. Donc ces deux types de transcendance philosophique, la platonicienne et la kantienne, Nietzsche pense que ce sont des avatars d'une transcendance théologique qui a existé auparavant et qui existe aussi dans d'autres cultures et qui considère qu'il y a un autre monde qui est le monde divin à côté du monde humain et qu'on espère que ce monde divin, on pourra même le rejoindre un jour après la mort ou après le jugement dernier ou quelle que soit la conception qu'on ait. Et il dit que du coup, l'argument qu'on peut utiliser contre les illusions métaphysiques de la philosophie, contre les illusions de la transcendance philosophique, c'est le même argument que celui qu'on peut utiliser pour faire une objection contre les transcendances théologiques. Bien sûr, dit-il, on ne pourra jamais prouver qu'un autre type de réalité n'existe pas. On ne peut pas le prouver. La chose en soi, on peut même penser scientifiquement que c'est raisonnable de la concevoir. C'est même, c'est du domaine de la science de pouvoir déterminer ses limites et de dire que quelque chose lui échappe. C'est même une réflexion scientifique. Mais par contre, le fait de donner toute une série d'attributs à ce monde, de le peupler de toutes sortes de choses, que ce soit des choses divines ou des choses idéales, ça, on peut objecter. De quelle manière? Eh bien, en essayant de reconstituer pourquoi les hommes ont besoin de concevoir ça. En se demandant, mais quelle est l'histoire de la genèse de ces conceptions-là? Pourquoi les hommes ont commencé à s'inventer cet autre monde? Pourquoi ils en ont eu besoin? Pourquoi ils se sont projetés dans ces autres mondes? Et ça, c'est une enquête qu'il n'appelle pas encore généalogie de la morale, mais qu'il va bientôt appeler du mot généalogie. Donc la généalogie, c'est l'histoire d'une genèse, l'histoire d'une apparition, d'une certaine conception. Et ça implique deux formes de science. Une science historique, d'abord, parce qu'il faut aller voir dans les civilisations, effectivement, comment ça apparaît, à quel moment, dans quelles circonstances certaines conceptions apparaissent. Et une science aussi psychologique, parce qu'il faut étudier en même temps quels sont les besoins psychologiques auxquels ce genre d'institution répond. Donc on allie histoire et psychologie, mais d'une manière extrêmement rigoureuse, extrêmement exigeante sur le plan de la méthode. Donc on retrouve une enquête absolument rationnelle et scientifique. Voilà le programme que Nietzsche se donne à ce moment-là. Et il le fait à cette époque-là de manière très, très dépassionnée, de manière très argumentative. Alors que dans sa troisième période, si on peut parler quand même encore d'une évolution vers les ouvrages de ces dernières années, il revient à une attitude beaucoup plus passionnée et beaucoup plus, par conséquent, violente. Une exposition des choses beaucoup plus violente. Je vous cite un petit extrait qui parle de l'idéalisme. Donc, illusion métaphysique, idéalisme, c'est à peu près la même chose pour lui. Donc, qui parle de l'idéalisme en faisant le reproche d'idéalisme à une de ses amies, une amie aristocrate, qui avait publié un ouvrage qui s'appelait justement « Mémoire d'une idéaliste ». Bon, c'est une époque où on est fier d'être idéaliste. C'est une époque où ça fait partie d'une certaine exigence justement éthique d'être idéaliste. C'est quelque chose de valorisé. Et donc Nietzsche s'inscrit évidemment, encore une fois, contre la valeur dominante de son époque. Et il dit, il lui reproche à cette amie, qui pourtant était très protectrice, très bienveillante envers lui, il faut le dire, mais il rompt en disant En fait, vous n'avez jamais compris mes œuvres, vous ne vous y êtes jamais vraiment intéressé parce que vous ne pouviez pas. C'était trop contraire à vos croyances profondes. Il dit, car vous êtes idéaliste. Et je traite l'idéalisme comme un instinct, comme une insincérité devenue instinct. Une insincérité, hein, un manque de sincérité. Comme un non-vouloir voir la réalité à tout prix. Non vouloir voir la réalité, hein. Le fait de s'aveugler volontairement pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Chaque phrase de mes livres contient le mépris de l'idéalisme. Aucune fatalité plus néfaste que cette insalubrité intellectuelle n'a plané au-dessus de l'humanité telle qu'elle a existé jusqu'à présent. On a dévalorisé la valeur de toutes les réalités afin de mensongèrement inventer un monde idéal. Mensongèrement inventer un monde idéal. Donc vous voyez, on dévalorise la réalité, et ça, plus tard aussi, Nietzsche l'attribuera essentiellement au christianisme. Il va se déchaîner contre le christianisme, mais ce n'est pas encore le cas maintenant, en disant que c'est typique du christianisme de dévaloriser tout ce qui concerne l'expérience sensible, hein, avec une haine de la sensualité qui est aussi bien sexuelle, évidemment, que beaucoup plus courante, qui est simplement une haine de tout ce qui nous vient des sens et du corps. Mais donc, voilà, l'idéalisme fait partie de ce rejet de ce monde qui nous est accessible par les sens et qui nous commande donc de concevoir l'existence d'un monde qui n'est que intelligible, où les sens ne jouent aucun rôle, qui n'est que intelligible ou que moral. En fait, toute métaphysique, toute morale, de la même manière que toute représentation, sont des créations historiques. Et c'est ça qu'il faut montrer. Que ce sont chaque fois des créations historiques et qu'aucune ne peut être affirmée comme existant précédemment. Donc, il est nécessaire aussi de se débarrasser de l'impératif moral kantien, pour la raison qu'on a dite, hein, parce que c'est un idéal posé de la même manière que les théologies, mais aussi pour une autre raison, à savoir que la morale kantienne, elle obéit, enfin d'après Kant, elle se manifeste dans les activités quotidiennes par la maxime de ne jamais faire ce qui ne pourrait pas être généralisé. Donc quand vous êtes dans une situation où vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire, comment dois-je agir, dans quel sens, la maxime, c'est le truc qui peut vous venir dans tous les cas, la petite formule que vous pouvez suivre dans tous les cas, et la maxime kantienne, c'est ne jamais rien faire qui ne puisse être généralisé. On retrouve ça d'ailleurs parfois dans l'éducation des enfants, quand on dit à un enfant, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si tout le monde faisait ce que tu fais, hein? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde se mettait à crier ou à... Et Nietzsche fait remarquer que cette maxime, en fait, elle est inapplicable parce que nous ne pouvons pas évaluer justement les conséquences qui se passeraient si tout le monde faisait la même chose, si tout le monde se mettait à faire des choses qui jusqu'ici sont considérées comme non permises, non morales, comme à proscrire. Il dit, on ne peut pas évaluer ce qui se passerait parce que nous l'évaluons à partir de notre conception actuelle de l'ordre social, du bien social. Nous avons une conception du bien social qui effectivement exige qu'on s'en tienne à certains comportements et qu'on proscrive d'autres comportements. Mais lui, il estime qu'il faut une nouvelle conception du bien social, qu'on est loin d'atteindre la société la plus haute, et qu'il faut justement investiguer les conditions d'une civilisation supérieure à la nôtre. Et pour arriver à une civilisation supérieure à la nôtre, justement, il ne faut pas se dire qu'est-ce qui est conforme à ce que nous estimons bien maintenant. Il faut se dire qu'est-ce qui est conforme à ce que nous voulons que soit bien dans une civilisation supérieure. Et tant qu'on n'aura pas déterminé justement ces finalités supérieures, on ne pourra pas non plus appliquer cette maxime. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi pour contribuer à cette civilisation supérieure? Donc voilà encore une investigation qu'il faut mener et qui est programmatique chez lui et qui va faire effectivement dans tout le reste de son œuvre. Alors, dans son désir de fonder une science psychologique, il se réfère à un héritage qu'il trouve extrêmement précieux, qui est celui des moralistes du XVIIe siècle. Donc, par exemple, des moralistes comme La Rochefoucauld, ou comme Pascal, justement, hormis son côté chrétien, bien sûr, ou comme Champfort, et aussi à des moralistes du XVIIIe, comme Voltaire. Je vous ai déjà dit qu'il avait un très grand une très grande admiration pour Voltaire, ou pour Lichtenberg en Allemagne, en précisant que ceux du 18e ont cet avantage par rapport à ceux du 17e qu'ils ont aussi mis en question la religion. Au 17e siècle, c'est encore impossible. Mettre en question le christianisme est à peu près impossible. Bon, pour des raisons ne fût-ce que de sécurité, mais sans doute aussi de culture, enfin de véritable formatage de la pensée. Au 18e, on balaye en plus ça. Et Nietzsche reprend notamment de La Rochefoucauld le fait que il y a une hypocrisie sociale extraordinaire qui fait que chaque fois qu'on affiche une vertu, c'est un vice caché. Que chaque fois qu'on affiche une intention morale, ça cache en fait ce qui est la véritable motivation de toutes nos actions, c'est-à-dire la vanité, l'égoïsme, l'ambition sociale, le désir de se faire bien voir. Donc que tout ça, en fait, tout est masque, pour La Rochefoucauld, tout est masque pour plaire en société. Mais Nietzsche va plus loin que ça. Il va plus loin que ça parce qu'il fait remarquer que, en fait, il existe certainement des comportements qui sont dictés par une vraie motivation sociale. Donc là où La Rochefoucauld disait morale, il n'y a aucune motivation morale, ce n'est qu'une façade qui recouvre le plus grand égoïsme. Non, Nietzsche dit que oui, il y a des motivations morales réelles. Les gens peuvent vraiment être mus par le désir d'agir bien, de faire le bien. Il y a des gens qui sont sincères dans leur désir de faire le bien et d'agir moralement. Mais quel est le problème? C'est qu'ils se trompent, leur jugement est erroné. Ils se trompent sur ce qu'est le bien, justement. Ils se trompent parce que toute la culture se trompe, parce que tout ce qu'ils ont appris sur ce qui était bien moralement est erroné. Et donc, en fait, le problème de la morale devient un problème intellectuel. Il faut combattre non plus une hypocrisie et un mensonge sociaux, il faut combattre désormais une ignorance. Il faut sortir l'humanité de sa profonde ignorance sur les véritables motivations de ses actions. Donc on intellectualise la question morale de la même manière que c'était déjà le cas dans l'Antiquité avec Socrate. Socrate disant « Nul ne fait le mal volontairement ». En fait, on fait toujours le mal par ignorance. On retrouve ça. C'est aussi une époque où, sous l'influence de ces moralistes du XVIIe siècle, Nietzsche adopte un type d'écriture qui lui est très particulier, qu'on lui associe assez facilement, qui est l'aphorisme, l'écriture par aphorisme. Donc un aphorisme, qu'est-ce que c'est? C'est une petite formule frappante, très ramassée, avec en général un style bien très travaillé, bien ciselé, et qui donc affirme quelque chose, affirme une observation, une remarque, sans du tout prendre le temps de l'argumenter, de répondre à des objections, de donner des exemples. Non, c'est très court et très frappant. Alors, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais il n'y a pas de discussion dans l'aphorisme. Et c'est par conséquent un style qui se prête bien aux satires sociales et morales. De tout temps, d'ailleurs, les moralistes ont utilisé ce type d'expression, même dans l'Antiquité. Vous pouvez penser, par exemple, à Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, qui a écrit des pensées pour moi-même sous forme de petits aphorismes. Ou Épicure, qui a écrit des maximes, des maximes et des sentences. Alors, maximes et sentences, c'est à peu près le même mot. C'est le mot qu'on utilisait précédemment pour aphorisme. Ça veut dire des courtes phrases, des courtes propositions, qui sous forme lapidaire, expriment une pensée qui n'est pas argumentée. Alors, ça pourrait paraître contradictoire que Nietzsche adopte cette forme d'expression non argumentée au moment même où il défend la science et justement toute sa rationalité démonstrative, explicative. Alors, comment est-ce qu'il peut concilier les deux? Il concilie les deux parce que ces aphorismes ne viennent jamais seuls. Dans Humain trop humain, vous avez, et dans toutes les œuvres postérieures à peu près, sauf Zarathustra, qui est encore une œuvre tout à fait autre, vous avez chaque fois une alternance d'aphorismes et de paragraphes plus longs qui, eux, sont démonstratifs, qui, eux, sont argumentés, donnent des tas d'exemples, répondent à des objections, donc qui relèvent plus de l'écriture scientifique, logique, argumentative. Mais il maintient ces diverses formes d'expression, pourquoi? Parce que Nietzsche a pour but principal de faire travailler son lecteur. Le lecteur ne doit pas avoir une lecture passive, mais active de sa philosophie. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le lecteur qui fasse l'effort d'abord d'interpréter l'aphorisme, et donc en ayant parfaitement le droit de l'interpréter à sa manière, selon sa propre manière de ressentir les choses, et aussi qu'il fasse l'effort de faire la synthèse entre tous les aspects différents que Nietzsche éparpille sur plusieurs paragraphes. Donc dans un seul paragraphe, vous n'aurez jamais une question traitée de A à Z. Ça n'existe pas chez Nietzsche, une question traitée de A à Z. Vous avez toujours une certaine thématique exprimée dans une dizaine ou plusieurs dizaines de paragraphes et d'aphorismes, et donc avec chaque fois des aspects séparés qui éclairent, qui font un petit éclairage différent sur la thématique. Et c'est à vous de faire le travail, de concilier tout ça, hein, de voir comment ça s'ajuste. Non pas pour boucler un cercle ou pour clore un système, ça n'arrive jamais chez lui, on ne peut jamais clore un système, jamais clore une question, mais en tout cas, pour vous donner assez d'éléments pour pouvoir juger, ne fût-ce que provisoirement, hein, sur un certain thème. Donc c'est vraiment une écriture qui est pensée, hein, c'est une écriture qui est choisie volontairement. Et dans son ouvrage « Ainsi parlait Zarathoustra », qui n'est pour une fois pas écrit comme ça, il justifie à mots couverts aussi la technique de l'aphorisme en disant ceci « Sur les montagnes, le plus court chemin va d'un sommet à l'autre. Mais pour suivre ce chemin, il faut que tu aies de longues jambes. » Pour passer d'un aphorisme à l'autre, il faut qu'on ait des longues jambes. Les maximes doivent être des sommets, et ceux à qui l'on parle, des hommes grands et robustes. Donc voilà évidemment une justification. Hein, celui qui est capable de passer de maxime en maxime, en comprenant tout ce qu'il y a dedans, c'est celui qui a des longues jambes, qui est grand et robuste. Donc il y a vraiment cet appel au lecteur tout le temps. Alors j'en viens maintenant un petit peu plus au contenu de la science que Nietzsche se propose de réaliser. Et tout d'abord, il nous dit ceci d'important, c'est que la science ne doit surtout pas retomber dans une autre illusion qui lui serait propre, qui serait la prétention à pouvoir atteindre une vérité absolue. Donc la science ne doit jamais penser qu'elle va atteindre une vérité à laquelle elle pourra s'arrêter, où elle pourra dire, voilà, ici nous avons le dernier mot, la dernière compréhension de tel phénomène. Donc il ne faut jamais tomber là-dessus, ce serait une illusion totale. Pourquoi ? Parce que, bon, bien sûr, nous savons que nous n'avons jamais affaire qu'à des choses qui sont façonnées par nos facultés. Ça, nous le savons. Et il prend un nouvel exemple, qui est celui des nombres. Les nombres sur lesquels repose par excellence la science. Hein, sur les formules mathématiques, sur les nombres, sur les mesures. Et il dit que les nombres n'existent pas dans la réalité, même dans la réalité phénoménale, hein, même dans les phénomènes tels qu'ils nous apparaissent, hein, même sans compter avec une réalité qui serait derrière, hein, celle-là n'existe pas. Mais les nombres n'existent pas dans le monde naturel. C'est nous qui créons les nombres à partir de nos expériences. Et nous avons besoin de créer des nombres pour faire nos expériences. Pourquoi ça n'existe pas ? Vous pourriez vous dire, mais en fait, il y a quand même un certain nombre de choses naturelles. On peut dire qu'il y a un certain nombre d'arbres, un certain nombre de brins d'herbe, un certain nombre de toutes les choses naturelles qui existent, non ? Il dit que non, parce que pour qu'il y ait un certain nombre de choses, il faudrait que ces choses puissent former des ensembles, c'est-à-dire puissent être rassemblées sous une identité commune. Pour pouvoir dire « il y a tel nombre d'arbres », il faut déjà que toutes ces choses qu'on appelle arbres soient vraiment identiques en tant qu'arbres. Or, Nietzsche dit « les noms que nous inventons, hein, que nous apposons aux choses et qui sont des généralités, hein, chaque nom est une généralité pour plusieurs choses, ces noms ne correspondent pas à des généralités qui existent dans les choses. Il n'y a pas, donc il adopte ce qu'on appelle le nominalisme en philosophie. Hein, les noms sont des généralités qui ne correspondent à rien dans les choses, qui sont juste nécessaires pour nous. Parce que dans les choses, il n'y a rien d'identique. Il n'y a pas en fait un arbre qui soit identique à un autre. Même pas si on dit, oui mais enlevons-lui toutes ses caractéristiques individuelles, hein, et retenons juste là ce qui est commun à tous les arbres. Et Nietzsche dit, il n'y a rien de commun à tous les arbres. Sauf ce que nous y mettons, parce que nous, justement, nous faisons cette démarche de dépouillement de ce qui ne nous intéresse pas. Hein. Nous écartons toutes les caractéristiques qui différencient les arbres entre eux pour retenir ce qu'il y a de commun. Mais si vous réfléchissez à ceci, en comparant, on peut continuer sur l'exemple des arbres, on peut aussi prendre un exemple entre deux êtres humains, prenez deux individus, et vous demandez pourquoi on les appelle tous les deux des êtres humains, malgré toutes les différences, pour ainsi dire, infinies qu'il y a entre deux individus. Donc je vous rappelle toutes ces différences quasiment infinies, différences physiques, différences de caractère, et puis différences d'histoire. Chacun a vécu chaque seconde de sa vie de manière différente de tous les autres êtres humains qui existent. Donc, chaque individu diffère de chacun des autres par des milliards de caractéristiques, peut-être potentiellement une infinité. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, nous les identifions tous comme des êtres humains ? Si vous dépouillez un individu de toutes ces caractéristiques que vous dites individuelles, qu'est-ce qui reste ? Rien. Il ne reste pas ce qui serait le commun à tous les êtres humains. Il ne reste rien. Et donc, une autre manière d'arriver à la même conclusion, c'est de se dire, en fait, nous retenons certaines de ces caractéristiques que nous privilégions pour créer des espèces, pour nous créer des rassemblements de choses, pour nous créer des ensembles de choses que nous pouvons désormais nommer de manière générique. Parce que nous en avons besoin. Mais en fait, c'est totalement arbitraire les caractéristiques que nous retenons. Il n'y a pas de raison de dire que certains caractères sont plus essentiels que d'autres. Il n'y a pas de raison de dire que chez un individu humain, par exemple, la couleur des cheveux serait plus individuelle, plus secondaire que le fait de posséder un cerveau d'une certaine configuration dont on pourrait dire « ça c'est commun à tous les humains ». Pourquoi une caractéristique serait plus secondaire que l'autre ? Pourquoi ce serait l'essence de l'homme d'avoir tel cerveau et non pas d'avoir telle longueur de cheveux ? C'est totalement arbitraire, c'est nous qui choisissons. Et nous pourrions choisir de manière tout à fait différente. Nous pourrions dire par exemple que nous rassemblons des espèces de choses ou des ensembles de choses, par exemple sur la couleur ou sur ce qui leur est arrivé à un certain moment. À tel moment, je me suis baignée. On va rassembler tous les gens qui se sont baignés à ce moment-là. On va créer une espèce, l'espèce des gens qui se sont baignés à ce moment-là. Des gens, ou de toutes les choses d'ailleurs, qui ont été mouillées à tel moment. N'importe quoi. Tout est possible quand on veut créer des rassemblements, des ensembles de choses. Et donc, on voit l'arbitraire, quoi. L'arbitraire qu'il y a à dire, non, nous sélectionnons seulement ce qui est essentiel. Mais non, il n'y a pas une chose plus essentielle. Ou du moins, c'est une... Du moins, s'il y a quelque chose que nous nommons essentiel... C'est parce que ça nous intéresse plus. C'est parce que ça nous intéresse plus que le reste. Et pourquoi ça nous intéresse plus ? Alors c'est ici qu'il y a déjà l'introduction d'une certaine généalogie. Eh bien c'est que, non seulement les êtres humains, mais en fait tous les animaux, depuis les animaux les plus simples, ont toujours eu besoin de sélectionner dans leur environnement ce qui leur était nuisible et ce qui leur était favorable. Et donc, pour repérer ce qui est nuisible et favorable, il fallait qu'ils aient une certaine reconnaissance de l'identique. Il fallait qu'ils puissent se dire « ce que j'aperçois maintenant est identique à ce qui, une autre fois, un autre jour, m'a nourri, m'a permis de me nourrir, donc que je reconnaisse comme un aliment qui est bon pour moi, ou au contraire, que je reconnaisse que ceci que j'aperçois » a déjà été pour moi un danger et donc que je le fuis parce que je reconnais le même danger. Donc la reconnaissance de l'identique est indispensable à la survie. Si un animal n'identifie pas immédiatement un prédateur, c'est pas le même que celui qu'il a déjà vu auparavant. C'est pas le même, c'est un autre individu. Mais s'il reconnaît pas l'identique, il va se faire dévorer. Même chose pour la nourriture, il n'aura jamais affaire à la même banane, il n'aura jamais affaire à la même souris. Il n'aura jamais affaire donc, au même aliment, mais il aura affaire à la même sorte. Et donc il faut qu'il reconnaisse la sorte pour pouvoir se nourrir. Donc toute la survie est basée sur la reconnaissance de l'identique. Et donc de l'estompage de toutes les caractéristiques individuelles pour ne reprendre que ce qui est essentiel, non plus essentiel au sens absolu, au sens où il existerait des essences, mais essentiel pour la survie de l'animal. Il est essentiel que je reconnaisse que ceci est bon ou mauvais pour moi. C'est ça l'essentiel. C'est l'essentiel pour la survie. Et c'est ce que Nietzsche appelle le perspectivisme, c'est-à-dire que nous sommes toujours dépendants d'une certaine perspective sur la vie. Chaque animal a sa perspective sur la vie, c'est-à-dire il sélectionne dans ce qu'il voit, dans ce dont il fait l'expérience, il sélectionne ce qui l'intéresse. Et il ne voit plus que ça. Donc, la vision de l'identique devient souvent plus spontanée et plus fréquente que la vision du détail. Le détail n'est pas important pour l'animal, en général. C'est pas important qu'il y ait tel ou tel caractère qui différencie une chose individuelle d'une autre. Ce qui est important, c'est juste de reconnaître l'identique. Bon, ça, c'est évidemment... Évidemment, ça a été renforcé par l'attitude scientifique. À partir du moment où les humains ont eu envie de connaître des choses, ils ont dû encore plus généraliser, puisque la science ne fonctionne que par règles générales ou catégories générales de choses. On ne peut rien dire scientifiquement d'une chose individuelle. Il faut toujours dire, voilà, tel type de chose se comporte de telle manière en général. Donc la science, encore plus, ne valorise que le général. Et donc, encore une fois, il faut bien se dire, par conséquent, que la science repose sur des fondements complètement erronés. C'est complètement erroné, puisqu'elle ne fonctionne que par le général, alors qu'en réalité, dans les phénomènes, il n'existe pas de général. Il n'existe que du particulier, du singulier, du complètement différent. Et on peut aller encore un petit peu plus loin en investiguant ces erreurs fondamentales de la science, en se disant que la science repose en outre sur deux principes qui sont érigés vraiment en principes de connaissance, c'est le principe d'identité et le principe de permanence. Le principe d'identité, on l'a déjà vu un petit peu, c'est le fait de considérer que chaque chose, en dépit de ses multiples caractères individuels, a néanmoins une identité. On peut la classer dans une espèce, on peut dire voilà, ceci c'est tel genre de chose, c'est tel type de chose, c'est telle identité. Mais la science repose aussi sur la permanence, c'est-à-dire qu'elle a besoin de dire que telle chose, en dépit de sa transformation dans le temps, en dépit du fait qu'on sait bien qu'aucune chose ne reste stable, toute chose se transforme constamment. Nous, à chaque seconde, nous sommes autres que nous-mêmes, en fait, nous avons changé à chaque seconde. Mais en dépit de ça, on a besoin de croire en la permanence, et il dit bien croire, il dit bien que c'est une croyance. En la permanence, c'est-à-dire en se disant, on reste quand même la même chose. Malgré les modifications dans le temps, une chose reste la même. On peut continuer à l'identifier comme la même chose à travers cette transformation chronologique. On a besoin de croire en ça, encore une fois, pour la question de la survie qu'on vient de décrire, et pour la question de la science. Et d'autre part, en plus, on a besoin de croire à notre propre permanence en tant qu'individu. On a besoin de croire que nous sommes les mêmes à chaque instant, que nous ne sommes pas chaque fois une autre personne, alors qu'on pourrait le penser aussi. On pourrait même avoir une attitude, cette fois, de scepticisme philosophique et se dire, en fait, qu'est-ce qui me dit que la conscience que j'éprouve à chaque instant, donc maintenant j'ai une conscience qui repose sur une certaine situation, une certaine perception de la situation dans laquelle je me trouve, qu'est-ce qui me dit que cette perception momentanée est liée à la perception qui va suivre par un lien de continuité, qui me dit qu'il y a une continuité là-dedans, que en fait mes perceptions ne sont pas atomisées, juste une série d'atomes comme ça, de perceptifs qui n'ont aucun rapport entre eux. Bon, ce sont des questions philosophiques qui ont été proposées à certains moments, notamment au XVIIIe siècle, par ce qu'on appelle les sensualistes anglais, comme Berkeley par exemple, qui proposait une sorte d'atomisme sensualiste, comme ça, l'atomisme des perceptions. Donc rien ne peut justement nous prouver que nous avons cette permanence. Mais nous avons besoin d'y croire, nous avons besoin de la poser. Parce que si nous doutons du fait que nous sommes toujours les mêmes, que nous restons la même personne en dépit de notre transformation, alors nous pouvons douter aussi, encore une fois, que ce qui nous a fait du bien un jour nous fera encore du bien aujourd'hui. Ou ce qui nous a fait du mal un jour nous fera encore du mal aujourd'hui. Et donc aucune expérience ne serait possible. Aucun apprentissage ne serait possible si nous ne restons pas la même personne. Il n'y a pas d'apprentissage dans ce cas-là. Ce qui arrive une fois ne se reproduira plus jamais, donc on ne peut pas juger d'une situation. On ne pourrait jamais juger d'une situation par expérience. Parce que quelque chose de similaire s'est déjà manifesté à nous, qu'on y a déjà réagi. Donc on ne serait pas formé de nos expériences, alors que c'est le cas. Nous sommes formés de nos expériences. Donc on a besoin de croire à cette permanence, encore une fois. Mais on ne peut pas la démontrer. Et c'est pourquoi, dit Nietzsche, la suspension de jugement n'a pas été sélectionnée, alors il utilise vraiment le terme sélection au sens darwinien du terme, elle n'a pas été sélectionnée, c'est-à-dire que ce n'est pas une attitude qui est généralisée, qui s'impose ou qui est même fréquente chez les humains, à la suspension de jugement, parce que la suspension de jugement, donc si on disait « je ne peux pas savoir, donc je ne me prononce pas », cette suspension de jugement, elle irait complètement contre la survie. C'est-à-dire quelqu'un qui irait vraiment jusqu'au bout de la suspension de jugement ne prendrait aucune décision en disant « je ne peux pas être sûr ». Et encore une fois, il y a eu de telles attitudes chez certains philosophes, notamment des philosophes de l'Antiquité qu'on a appelés les sceptiques, enfin les premiers sceptiques de l'Antiquité allaient très très loin, comme Pyrrhon par exemple, hein, allaient très très loin dans ce sens, en disant qu'ils ne pouvaient pas du tout être sûrs que s'ils longent un précipice, ce précipice est réel ou est une projection de leur esprit, hein, ou est une simple illusion. Et ils ne peuvent pas savoir en outre si ce précipice est quelque chose de bon ou de mauvais pour eux. Hein, si le fait de s'y précipiter est mauvais ou pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Donc ils suspendent leur jugement. Hein, donc, avec toutes sortes d'arguments sur le fait que nous ne pourrons jamais être certains que nous ne sommes pas dans l'illusion perceptive, etc. Mais ils n'ont jamais pu aller jusqu'au bout de cette attitude. Jamais aucun philosophe n'a pu aller jusqu'au bout de cette attitude, sinon il serait mort, évidemment, tout de suite. Hein. Il n'aurait rien à manger parce qu'il ne sait pas si c'est mieux de manger ou de ne pas manger. Hein. Il ne sait pas si c'est mieux de boire de l'eau ou du pétrole. Il ne sait pas si c'est bon de se jeter dans le précipice, il s'y serait jeté. Donc c'est une attitude qui est complètement démentie par l'instinct de survie. L'instinct de survie, en fait, nous ordonne de décider, nous ordonne de juger. Nous devons juger les choses. Hein. Nous devons dire ceci est de telle sorte et par conséquent c'est bon ou mauvais pour moi. Donc nous jugeons constamment en fonction de l'utilité et de la nuisance des choses pour notre vie. Et donc il faut que la science soit consciente, qu'elle repose là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire de la science. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer même à chercher une vérité. On peut même continuer à utiliser le mot vérité. Il y a une recherche de la vérité. Mais cette vérité, il faut savoir qu'elle est relative à nous. C'est une vérité seulement relative à nous. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas une vérité en soi. C'est une vérité relative à nous, c'est-à-dire que les sciences vont procéder de quelle manière ? Il y a certes un progrès des sciences. Les sciences atteignent une certaine cohérence dans leur description et leur explication des phénomènes. Il y a même une cohérence entre les diverses sciences qui se complètent et se facilitent les unes les autres. Elles peuvent utiliser les résultats des unes des autres, donc il y a une cohérence même globale des sciences entre elles. Tout ça est parfaitement vrai. On peut leur appliquer des critères hein, de vérifiabilité, de falsifiabilité. Tout ça est parfaitement exact, dit Nietzsche. Mais c'est presque une tautologie à partir du moment où on sait que tout repose sur notre même perception des phénomènes. Tout repose sur nos filtres, hein, nos catégories par lesquelles nous appréhendons et classifions les phénomènes. Donc forcément, puisque c'est toujours le même sujet instituant, hein, donc sujet instituant, c'est pas le sujet individuel hein, qui est différent d'un individu à l'autre, c'est le sujet au sens général, c'est-à-dire l'être, pas seulement humain, l'être sensitif, l'animal, qui a une certaine ouverture au monde hein, par ses facultés sensorielles et intellectuelles. Donc ça, c'est le sujet instituant. Instituant pourquoi ? Ben parce que c'est lui qui donne une certaine structure au monde, qui donne une structure au monde à partir de ses facultés, ce qu'on vient de décrire. Donc, puisque le sujet instituant est par définition toujours le même, hein, nous avons tous une même structure sensorielle et une même capacité, catégories de l'entendement. Par conséquent, forcément, chaque fois que nous établissons un savoir scientifique, c'est passé par ces filtres-là. Et quand nous voulons vérifier un savoir par un autre, nous lui appliquons les mêmes filtres, nous lui appliquons les mêmes catégories, les mêmes exigences, les mêmes types de mesures. Donc, forcément, ces savoirs se vérifient l'un l'autre et se confirment l'un l'autre. C'est logique. Et comme ça, on peut établir toute une construction scientifique qui n'est absolument pas vaine, qui n'est absolument pas inutile, qui est extrêmement valorisée. Mais qui doit savoir qu'elle repose sur des fondements uniquement relatifs à nous. Voilà. Et la conclusion de tous ces raisonnements, on peut dire qu'elle est résumée dans un petit aphorisme qui s'appelle « Dernier scepticisme » et qui dit « Que sont donc pour finir les vérités de l'homme ? Ce sont les irréfutables erreurs de l'homme. » Erreur, mais irréfutable. Hein, toute vérité est une erreur, c'est dans ses fondements elle est une erreur, puisque, hein, encore une fois, ce n'est jamais valable et valide que pour nous. Ça ne peut pas prétendre à une vérité en dehors de nous. Mais en même temps, c'est irréfutable. C'est irréfutable, on peut appliquer toutes les méthodes de vérification et faire en sorte qu'au bout d'un moment, on ne puisse plus réfuter. Voilà, ça fait partie d'un système qui est notre système, qui est ce système relatif à nous, que nous pouvons construire. Et donc ce système, encore une fois, ce système scientifique vaut mieux que d'autres conceptions du monde. Ce n'est pas relatif au sens... où l'entend par exemple un certain constructivisme à l'heure actuelle qui considère que la construction scientifique est exactement de la même valeur qu'une construction par exemple mythologique, une construction fantaisiste, légendaire, fictive même du monde. Non, ça a une autre valeur parce que justement on exige qu'il y ait une cohérence entre toutes les méthodes, entre tous les types d'observations, donc entre l'ensemble de toutes les attitudes scientifiques. Il faut qu'il y ait une cohérence. Donc ça passe par une rigueur, une exigence que n'ont pas les autres discours. Alors l'impossibilité d'atteindre une vérité absolue ne doit absolument pas être une cause de tristesse ou de découragement. Au contraire, c'est le plaisir de la découverte doit en être décuplé parce que justement ce plaisir est constamment renouvelé. Et c'est alors que Nietzsche fait une analogie assez... Je trouve assez remarquable, il dit, le scientifique ou le philosophe, parce que pour le moment il lie étroitement les deux, doivent être des don juan de la connaissance. Donc de la même manière que don juan ne s'arrête jamais à une conquête, parce que ce serait trop pauvre de s'arrêter à une, il y a toutes les autres à découvrir. Et donc de la même manière, le scientifique lui aussi ne doit jamais s'arrêter à une conquête de la connaissance, mais il doit tout le temps relancer sa recherche et remettre en question ce qu'il a découvert, parce qu'il n'atteindra jamais la fin. Donc, il y a bien une recherche de la vérité, mais cette recherche est un cheminement sans fin. Et le but n'est pas, à un moment, pouvoir s'arrêter en disant « c'est fini, on a tout compris ». Le but, c'est le chemin lui-même. C'est de progresser sans cesse, c'est de continuer à chercher. Et c'est là qu'est la joie. La joie est dans la découverte, elle n'est pas dans le fait de tout d'un coup s'arrêter. Il n'y aurait plus de joie si on devait s'arrêter. Et de la même manière, il fait cette remarque que l'enseignement de la science, par conséquent, ne doit pas se contenter de faire connaître les résultats auxquels on est arrivé à un certain moment, de dire, voilà, on a établi que c'est ceci, que c'est telle théorie qui nous paraît la plus valide, etc. On ne doit pas se contenter des résultats, parce que ça pourrait ouvrir la voie à un nouveau dogmatisme. Qu'est-ce que ça change de dire voilà les résultats de la méthode scientifique ou de dire voilà les résultats de la vérité révélée? Ça ne change rien si vous n'apprenez que le résultat, si vous n'enseignez que le résultat. On ne sait pas pourquoi on pense que ce résultat est meilleur qu'un autre, que n'importe quel autre. C'est comme on devrait l'accepter de manière dogmatique, comme si, avec une, comme une croyance. C'est l'opposition entre une connaissance et une croyance. Si on vous dit simplement ce qu'on sait sans vous dire pourquoi c'est comme ça, c'est comme on vous demande d'y croire, c'est tout. Et on vous demande d'y croire exactement comme une religion révélée vous demande d'y croire, un point c'est tout. Et pas de demander, oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Donc, quand on enseigne la science, on doit toujours expliquer la démarche par laquelle on est arrivé à ça. Expliquer toute la méthode et pourquoi on est arrivé à ça. Et quels ont été les obstacles, les objections. Pourquoi on a éliminé d'autres alternatives, par exemple. Toujours montrer par où on est arrivé. Ça, c'est une science non dogmatique et qui peut pousser à l'esprit scientifique. Alors, d'autre part, la recherche scientifique, elle est aussi une joie pour une autre raison, c'est parce que, en fait, elle correspond à un instinct. Et on s'avance ici vers une théorie qu'on verra plus amplement chez Nietzsche, le fait que, au fond, toutes nos motivations sont toujours des instincts. Mais il y a une multiplicité d'instincts qui sans cesse sont à l'œuvre en nous, Et tout ce que nous faisons quand nous choisissons, c'est choisir entre des instincts. C'est choisir de privilégier l'un plutôt que l'autre, à chaque instant. Mais en fait, justement, il y a un instinct de connaissance. Nous sommes poussés par un instinct vers la recherche de plus de connaissances, et même, dit-il, en dehors de toute visée d'utilité matérielle ou pratique. Même en dehors de ça, nous avons un instinct de connaissance désintéressé. Et ça, il le constate alors à son époque. Il dit qu'on voit bien qu'à son époque, on ne peut plus se passer de la science. On a envie de connaître, on a besoin d'en connaître plus, même si ce n'est pas, encore une fois, pour une utilité strictement matérielle ou technique, etc. Non, par plaisir. On a un plaisir à connaître plus. Et donc, il faut se laisser aller à cet instinct, privilégier cet instinct, et la science donnera de plus en plus donc, de plaisir, de joie. C'est pourquoi aussi, dit-il, il ne faut pas mettre trop de fierté dans l'attitude scientifique, hein, faire comme si c'était quelque chose qui exigeait beaucoup d'efforts, de peine, et comme si on était extrêmement valorisé de se dédier à ça plutôt qu'à une autre activité. Et il, encore une fois, une petite citation, je trouve, qui est un beau renversement, comme ça, il a l'art des pirouettes, enfin de la légèreté, hein, toujours une légèreté qui doit empêcher qu'on tombe dans la lourdeur, hein, dans la sévérité, la gravité, la rigueur excessive. Et donc cette pirouette, c'est celle-ci. Il dit « Notre probité à nous, esprit libre, notre probité, hein, c'est-à-dire cette exigence d'honnêteté extrême que demande la science, c'est-à-dire cette lucidité extrême, le fait qu'on ne déguise pas, qu'on ne s'illusionne pas, qu'on ne se leurre jamais, ni par profit personnel, ni par besoin culturel, bon, cette probité qui caractérise la science. Prenons garde qu'elle ne devienne notre vanité, notre parure et notre parade, notre limite, notre sottise. Toute vertu tend à la sottise, toute sottise à la vertu. Sot jusqu'à la sainteté, dit-on en Russie. Craignons que notre probité ne nous transforme en saints et en raseurs. La vie n'est-elle pas 100 fois trop courte pour qu'on s'y ennuie ? Il faudrait croire à la vie éternelle pour 3 points de suspension. Donc, beau renversement. Donc, c'est pas la peine de prendre l'attitude du saint, hein, et du vertueux qui s'efforce, voilà, de faire quelque chose que personne d'autre ne sait faire. Non. En fait, on le fait parce qu'on ne s'y ennuie pas. On le fait parce que c'est le contraire de l'ennui, parce que c'est un plaisir. Et déjà là, il introduit aussi la notion de la danse. Hein. C'est que c'est comme une danse, c'est comme danser et planer, quoi, quand on fait de la science ou de la philosophie. Et j'ai mentionné ici le petit mot esprit libre, l'expression esprit libre. Je vais terminer sur peut-être une certaine problématisation de la notion d'esprit libre, parce qu'elle est problématique. On a déjà vu, et on va voir encore bien plus amplement, que pour Nietzsche, nous sommes vraiment constitués d'instincts, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler des déterminismes biologiques et culturels. Il va insister lourdement au cours de cette période-ci, et ça on verra la semaine prochaine, il va insister lourdement sur l'absence de véritable responsabilité des actes chez un individu humain. Absence de responsabilité parce qu'il est tellement influencé et par sa nature biologique et par sa nature sociale, par l'ensemble des valeurs sociales qui ont été transmises. Et en même temps qu'il nie toute responsabilité et toute volonté libre, ou libre arbitre selon l'expression traditionnelle, en même temps, il parle d'esprit libre. Alors pourquoi, comment est-ce qu'il peut dire nous les esprits libres ? Et je vous fais remarquer, c'est une expression qui reviendra tout au long de son œuvre. Jusqu'à la fin, il dira nous les esprits libres. Donc il pense qu'il y a quand même de l'esprit libre. Alors où est la liberté de l'esprit ? Et ici, je ne donne pas la réponse tout de suite parce qu'elle se développe progressivement. Mais simplement, ce qu'il en dit dans Humain trop humain d'abord, parce que Humain trop humain est sous-titré un livre pour esprits libres. C'est le sous-titre de l'œuvre. Il s'adresse aux esprits libres. Et il définit l'esprit libre comme celui qui pense autrement qu'on ne l'attend de lui, à cause de son origine, de son milieu, de sa situation et de son emploi, ou à cause des vues régnantes de son temps. Donc l'esprit libre, c'est celui qui pense autrement que ce à quoi on pourrait s'attendre en se disant bah, « il a telle profession, il est de tel milieu social, il est où il est dans... » telle culture, hein, il est issu de telle culture, que forcément il va réagir de telle ou telle manière, il va avoir telle conception. Eh bien l'esprit libre, c'est celui qui est imprévisible, qui va vous sortir quelque chose de totalement imprévu, hein, qui donc a réussi à rompre avec ses déterminations du milieu. Et il l'oppose à l'esprit dépendant qui n'est pas libre, donc c'est l'esprit qui ne juge que par accoutumance, que par habitude, hein, que par, donc qui ne s'interroge plus, qui ne met plus en question ses habitudes. Et donc l'accoutumance est une croyance. La croyance, elle est opposée au savoir ou à la pensée, parce que c'est typiquement l'arrêt de la pensée. La croyance, c'est l'arrêt de la pensée. C'est quand on a une conception qu'on n'interroge plus, qu'on ne remet plus en question, et qu'on manifeste dans ses activités simplement par habitude. Bon, c'est, si on réfléchit, si chacun réfléchit sur soi-même, il trouvera énormément de choses, évidemment, qu'il ne fait que par habitude, ou par mimétisme, hein, ou parce que tout le monde le fait, etc. etc. Et il fait remarquer aussi que les hommes d'action, dont on pourrait penser que ce sont des esprits libres, qui ont parfois l'air d'être des esprits libres, en tout cas, il dit que ce sont des esprits forts, des caractères forts. Mais il ne faut pas les confondre avec des esprits libres, ceux-là, parce que l'homme d'action, c'est quoi? C'est un homme qui agit vite et énergiquement. Mais pour pouvoir agir vite et juger vite, quelles sont les conditions pour ce faire? Eh bien, les conditions, c'est que, en fait, il a un très petit nombre de motivations. Il a un très petit nombre de choix potentiels. Il juge en très très peu de possibilités, parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui s'est fermé beaucoup de possibilités. Un homme d'action, c'est un homme qui est déjà inscrit dans une certaine profession, hein, donc qui agit dans le cadre de sa profession et selon les impératifs de cette profession, de cette fonction. Donc l'homme d'action politique, par exemple, il va agir dans le cadre étroit défini par l'action politique de son époque et des circonstances dans lesquelles il a été chargé de cette fonction. Et donc, il y aura peu de choix finalement qui s'offriront à chaque fois à son action. Et c'est pour ça qu'il peut décider vite et agir énergiquement. Même chose pour... Et alors ici, toute une série de professions, comme le banquier, le professeur, etc. Ils ont, voilà, leur champ est déjà limité, leur champ des possibles est déjà tellement limité par leur fonction ou leur profession que c'est facile pour eux de décider vite. Au contraire, l'esprit libre, il va décider lentement, parce que tout lui est ouvert. Toutes les possibilités sont présentes a priori. Il n'en exclut aucune a priori. Il doit chaque fois réfléchir à chacune pour envisager si c'est la meilleure ou pas. Ce ne sera pas un esprit rapide. Et puis alors, lorsqu'il rédige un nouvel avant-propos pour Humain trop humain, en 1886, hein, donc 1886, c'est tard dans son œuvre, c'est presque la fin de sa vie consciente. Lorsqu'il rédige cet avant-propos, il écrit qu'il s'est inventé en fait des esprits libres à qui s'adresser, parce que en fait, à l'époque, il n'en voyait aucun, il n'en connaissait aucun, et il pense qu'il n'y en avait jamais eu avant. Mais il s'en est inventé à qui s'adresser pour tromper sa solitude, par besoin de se sentir moins seul, par besoin de communiquer avec quelqu'un, hein, d'avoir l'impression qu'il y a des interlocuteurs pour l'entendre. Et je vous fais remarquer que le sous-titre de « Ainsi parlait Zarathoustra », qui vient juste un petit peu quelques années plus tard, c'est « Un livre pour tous et pour personne ». Et donc, il y a toujours ce problème de « À qui je m'adresse ?»« À qui je m'adresse ?» Tous ces personnes, ça veut dire tous potentiellement. Tout le monde devrait être capable, mais en même temps, c'est peut-être personne, parce que peut-être que personne n'aura l'ouverture pour essayer de me comprendre, personne n'aura envie, ou que personne n'arrivera à le faire. Donc ici, quand il dit voilà, qu'il s'est inventé des interlocuteurs, c'est parce qu'il avait besoin de savoir qu'il n'écrivait pas juste pour lui-même. Il dit, on n'écrit jamais seulement pour soi, on écrit parce qu'on essaye de parler à quelqu'un. Donc voilà comment il a inventé des esprits libres. Mais, ajoute-t-il, et ça là, pourtant, il est le dernier à douter, dit-il, qu'il y en aura un jour des esprits libres. Donc vous voyez, il y a toujours cette réouverture. Hein. On a une impression de fermeture, d'étroitesse, et tout à coup, on rouvre tous les possibles. Il y en aura un jour des esprits libres. Et lui, on peut dire qu'il justifie l'ensemble de toute son œuvre et même de toute sa vie par une contribution qu'il espère apporter à la naissance d'esprits libres. Au fond, c'est ça toute sa vie, toute la motivation de sa vie, c'est contribuer à ce que naissent des esprits libres alors qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à son époque. Et donc, voilà la citation Donc il dit, même si la route est encore longue jusqu'à cette liberté mûrie de l'esprit, liberté mûrie de l'esprit, donc il y avait une liberté qui est affirmée, qui est aussi domination sur soi-même et discipline du cœur, et qui permet l'accès à des façons de penser multiples et opposées. Donc, la liberté de l'esprit, évidemment, c'est le fait d'embrasser des façons de penser multiples et opposées, jusqu'à cette surabondance des forces plastiques, médiatrices, éducatrices et reconstituantes. Forces plastiques, c'est-à-dire qui peuvent façonner la matière à connaître. Éducatrices, parce que il y a quelque chose à transmettre, il faut élever les autres pour qu'ils aillent plus loin même que nous. Et reconstituantes, parce que tout est à refaire, toute la culture est à refaire, qui est justement le signe de la grande santé. Encore un concept d'Hitchéen, on a déjà vu le grand style, voilà la grande santé. La grande santé, c'est être capable de faire ça, d'apporter ça à l'humanité. Cette surabondance qui donne à l'esprit libre le dangereux privilège de pouvoir vivre à titre d'expérience, c'est souligné, et s'offrir aux aventures. L'esprit libre, c'est un pionnier, c'est un explorateur. Il va plus loin que personne n'est jamais allé dans les origines de la connaissance, dans les fondements de la connaissance, et aussi dans les fondements de la morale, de la manière de vivre. Donc il vit à titre d'expérience, il est un expérimentateur. Et c'est une attitude dangereuse, c'est un dangereux privilège. C'est en même temps un privilège parce qu'il est le premier, c'est en même temps un danger puisqu'il ne sait pas où il va. Personne n'a balisé ce chemin. Et ça peut être un chemin où on risque de s'enliser. D'ailleurs, encore une fois, bon, je vous avais dit un mot de... une interprétation assez probable de sa folie. Bon, moi, je pense vraiment qu'il est allé trop loin, tout seul, sur un certain chemin. Voilà. Et donc, voilà, s'offrir aux aventures. Donc, j'en termine là-dessus pour aujourd'hui. Donc, en vous annonçant qu'on va revenir à l'épistémologie, à tous ces concepts épistémologiques qui sont avancés ici, de manière plus approfondie, parce que dans les œuvres qui vont suivre, il y revient abondamment. Et ensuite, mais la semaine prochaine, je vais d'abord passer à la généalogie de la morale, qui est contemporaine de ceci, et qui repose sur les mêmes principes, qui repose sur ce principe de remonter au-delà des institutions sociales pour comprendre comment elles sont apparues et pour les refaire autrement. Pour voir aussi ce qui est indispensable, ce dont on ne peut pas se passer, et évaluer... ce qui serait une civilisation supérieure, ce qui serait un accès à une civilisation qui vaut plus, à la position de meilleure valeur que celle des autres. Voilà. Je termine.
Attribuer des liens à des événements qui sont a priori indépendants, et donc on peut le faire à travers la science, on peut le faire à travers aussi la religion. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça que, enfin, si véritablement la recherche fondamentale, une des principes fondamentaux de l'homme, c'est de la recherche du savoir, c'est que là, il n'y aurait pas eu le scientisme, il n'y aurait pas eu ces excès à son époque, c'est-à-dire une volonté à se donner à la science, à attendre de la science qu'elle donne des réponses qui n'étaient pas dans son champ de recherche. Donc, comment il peut justifier que c'est fondamental, que c'est la recherche du savoir qui est fondamentale chez eux, ils n'ont pas la recherche du sens, de donner un sens aux choses.
Oui, c'est très important ce que vous demandez, parce que bien sûr, il y a chez lui cette critique, je vais commencer par là, du savant qui s'interroge sur des petits détails du monde naturel sans se soucier de faire le lien avec la recherche du sens de la vie humaine, hein, de pourquoi nous sommes là et de pourquoi au fond nous intéressons-nous à des petits détails du monde naturel. Donc il y a une critique de la science qui ne serait que une investigation spécialisée, extrêmement étroite de certains domaines du réel et qui par là se divertirait de la question principale de la vie humaine plutôt que d'y contribuer. Alors, lui, ce qui l'intéresse dans la science et dans la connaissance en général, enfin, mais la connaissance, il entend connaissance scientifique quand il en parle. Donc, ce qui l'intéresse, c'est justement qu'elle est toujours en lien avec le sens, que la connaissance nous donne toujours un éclairage sur le sens. Et quand la science est chargée, justement, de poser ses propres limites, hein, en se disant, mes limites, c'est les phénomènes, il n'y a pas de chose en soi, ou mes limites, c'est le perspectivisme, je ne pourrai jamais parler et connaître que selon une certaine perspective que j'ai sur la vie, quand la science se rend compte de ça, du même coup, elle contribue énormément à la question du sens. Parce qu'elle empêche qu'on cherche le sens dans des pures fictions, dans des inventions complètement illusoires. Elle empêche qu'on cherche son sens justement dans un arrière-monde, hein, en disant ça n'existe pas, ou qu'on cherche son sens dans une vérité absolue en disant ça n'existe pas, donc le sens il faudra le chercher ailleurs. Donc la science contribue à savoir où on peut chercher le sens et où c'est une pure illusion de le chercher. Donc il contribue aussi, hein, une bonne science y contribue. D'autre part, il ne dit pas que l'instinct de connaissance est l'instinct le plus fondamental. D'ailleurs, en fait, pour ainsi dire, il ne va jamais dire qu'il y a un instinct plus fondamental, sauf quand il évoquera la volonté de puissance, mais la volonté de puissance, ce n'est pas un instinct. C'est plutôt justement la généralisation de toutes les forces. Bon, on y reviendra. Mais il n'y a pas un instinct qui est plus fort que les autres ou plus fondamental. L'instinct de connaissance, il dit qu'il existe aussi pour justifier le fait que la connaissance n'est pas quelque chose de pénible, ce n'est pas une contrainte qu'on devrait s'imposer, alors que tous nos instincts nous pousseraient au contraire vers le divertissement ou l'amusement ou des choses plus légères, plus faciles. Il dit, voilà, on est attiré bien sûr par des choses plus agréables, enfin pas plus agréables, mais plus légères et plus faciles, mais on est vraiment aussi attiré naturellement vers l'activité scientifique. Voilà, alors à titre différent selon les individus. À titre divers selon les individus, hein, les instincts n'ont pas les mêmes rapports de force entre eux chez tous les individus. Mais donc il dit que si on veut cultiver l'attitude scientifique, il faut cultiver cet instinct. Voilà, est-ce que je réponds à l'ensemble de vos questions ?
Mais par rapport à ces scientifiques justement présentés un peu comme des poules qui veillent à pondre leurs œufs mais qui sont un peu détachés du monde, ou la description du botaniste qui passe son temps à compter les étamines. À la même époque de Nietzsche, il y avait aussi toute une prétention de la biologie et puis du darwinisme social, pour être plus précis, à donner des directives pour expliquer comment orienter les choix sociaux, les choix politiques. Et donc on s'appuyait sur la science, enfin c'est le positivisme, on s'appuie sur la science pour justifier des choix politiques. Comment lui il traite ça? Parce que c'est une vision d'un scientifique tout à fait différent, justement, très impliqué dans la société, mais qui ne le fait pas au terme d'une analyse philosophique, qui transpose un peu ces concepts biologiques sur des choix.
Oui, donc Nietzsche connaissait effectivement le darwinisme social, enfin, ceux qui ont essayé d'appliquer à la société les théories darwiniennes, et il le condamne tout à fait, effectivement, pour cette raison que tout ce qu'a pu investiguer, effectivement, de manière très rigoureuse et très scientifique Darwin, et dont il reconnaît parfaitement l'héritage, donc tout ça, lorsqu'on le transpose à la société, est fait de manière qui n'est plus du tout adaptée à ce type de recherche-là. C'est-à-dire que lui, justement, met en valeur le fait que pour investiguer les institutions sociales comme la morale, par exemple, ou comme la religion, ou comme les codes sous les codes sociaux, il faut une toute autre méthode. Et c'est pour ça qu'il propose sa propre méthode. Mais on ne peut pas transposer simplement les résultats d'une science à ce type d'objet-là. Donc, c'est quelque chose qu'il connaît et dont il estime que c'est tout à fait abusif. Et effectivement, il parle aussi du positivisme, je ne sais pas s'il utilise le mot, mais en tout cas, il parle de l'attitude positiviste, qui s'imagine que, en connaissant simplement les sciences de la nature, ou les sciences mathématiques, on va pouvoir résoudre tous les problèmes de la société humaine. tous les problèmes psychologiques, tous les problèmes sociaux. Bon, il y avait des prétentions, par exemple, à résoudre les problèmes de criminalité. Et tout ça, lui paraît ridicule. Et justement, à cause du fait que il ne s'agit pas d'une attitude scientifique, il ne s'agit pas d'une recherche scientifique qui est consciente de ses propres limites. Il ne s'agit pas d'une recherche scientifique qui a réfléchi à ce qui était son domaine où elle était vérifiable et falsifiable, mais qui prétend connaître le tout, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre ce qui est connaissable par elle et ce qui est inconnaissable par définition par elle. Donc il y a tout un défaut là d'épistémologie, enfin de critique épistémologique, de critique du champ qu'on peut investiguer avec un certain type de méthode ou avec un certain type d'observation. Voilà, donc effectivement, ça rejoint un peu la question précédente, c'est-à-dire il y a c'est pas toute la science qui est valorisée, c'est pas n'importe quelle manière de mener la recherche scientifique qui est valorisée. C'est celle justement qui est toujours consciente de ses propres fondements, c'est-à-dire de sur quoi elle s'appuie, et qui est consciente du fait qu'elle s'appuie sur quelque chose de purement relatif à nous. Et donc à partir de ce moment-là, elle ne peut pas faire des déclarations absolues. Elle ne peut faire des déclarations que dans un domaine dont elle a vérifié que ça correspondait, enfin c'est un domaine phénoménal dont elle a vérifié que ça correspondait à certaines... on pouvait en dire certaines règles générales et les vérifier, toujours en sachant que de cette manière-là, on ne connaît que des phénomènes. Voilà, donc une science consciente de ses limites et ne pourrait pas devenir positiviste. Elle ne pourrait pas devenir positiviste.
Tu reviens sur la notion de sujet instituant. Et la question que je m'étais posée, c'est à quoi est assujetti, en fait. Quand je pense sujet, moi je pense au type d'assujettissement auquel il est soumis. Et ce que je me demandais, c'est finalement... Pardon. Donc, je me posais la question de... Vis-à-vis du sujet instituant, je me demandais à quoi, en fait, Nietzsche... quel était l'assujettissement auquel il était soumis, ce sujet. Et, d'après ce que j'ai pu comprendre, plutôt que la notion de vérité, j'ai l'impression que la vérité de ce sujet instituant, c'est en fait plus la cohérence qu'une vérité. L'assujettissement donc, de ce sujet, tel que Nietzsche voit, c'est...
Oui, alors ça fait une perche très intéressante pour que je puisse parler un peu du sujet, parce que, il faut remonter antérieurement dans l'histoire de la philosophie, donc à l'apparition de la notion de sujet, pour se rendre compte qu'il y a une profonde ambiguïté du mot sujet qui a signifié d'emblée deux choses très différentes qui se sont de plus en plus éloignées l'une de l'autre et qui finalement engendrent une véritable... ambiguïté, équivocité du terme. Et donc, l'une de ces significations a mené effectivement au sujet comme assujetti, c'est-à-dire au sens où on peut dire le sujet du roi, le sujet au sens de ce qui est soumis à quelque chose. Mais l'autre notion, l'autre signification du terme, c'est le sujet en tant que celui à qui, c'est au sens de la substance, à laquelle on attribue une série de caractéristiques, à laquelle on donne une série d'accidents ou d'attributs. Et c'est la notion la plus ancienne, au moment où apparaît le mot « sujet » en grec, hein. Mais je peux vous montrer que le terme, hein, si on reconstitue l'étymologie, si on décompose le mot étymologiquement, le terme s'est remarquablement maintenu à travers les différentes langues. Donc en grec, on a « hypokeimenon ». Alors, hypo, ça veut dire son. Et keimenon, c'est du verbe qui signifie se trouver ou être couché. Ce qui se trouve sous, hypo keimenon. Ça, c'est le sujet. C'est ce qui se trouve sous. Et donc, les Latins, les Romains, quand ils ont repris cette notion grecque, ils l'ont simplement transposée en soup, hein, donc c'est l'équivalent de lupo, soup, et iectum, subiectum, qui veut dire, alors ça vient du verbe latin qui signifie exactement la même chose que keimai en grec, hein, donc c'est se trouver sous, hein, se trouver être donc sous-jacent, hein, on dit aussi sous-jacent, voilà. Et donc en français, ben, on a simplement transposé le latin et on a dit sujet. Donc le sujet, c'est littéralement ce qui se trouve sous. Et donc on pourrait dire, si on dit, alors le sens qu'on a vu, le sens de assujettissement, il est assez évident d'après l'étymologie, puisque ça veut dire se trouver en dessous, par exemple, d'un pouvoir ou une domination ou d'une influence, hein, sous une influence, donc soumis à quelque chose. On pourrait dire ici soumis au lieu de sous-jacent. Mais en fait, il se fait que ce n'est pas ce sens qui a été le premier. Il se fait que le sens premier dans la philosophie, le sens premier de Hypokeimenon, c'est plutôt la substance au sens où elle est indépendante par rapport à ses attributs. C'est plutôt justement ce qui a cette permanence, cette identité qui sont fondamentales en philosophie. Cette permanence et cette identité, indépendamment donc de tous les changements d'attribution qu'on peut faire à la même chose. Et donc c'est ce qui définit de la manière la plus exacte un individu. Quand on dit d'un individu qu'il est un sujet, on veut dire précisément ce qu'il est de manière permanente et identitaire, et non pas ce qui chez lui est changeant et justement soumis au temps ou soumis aux circonstances. Donc c'est l'inverse de la soumission. C'est plutôt ce qu'il est par lui-même. Donc le sujet comme substance est plutôt ce qu'il est par lui-même, indépendamment de ce qui peut lui arriver de l'extérieur. Et dans la philosophie moderne, cette fois, là, c'est devenu beaucoup plus tout à fait clair qu'on a opposé systématiquement, donc à partir de Descartes, on a opposé systématiquement le sujet et l'objet dans cette relation que nous avons par rapport aux choses extérieures. Donc il y a ce qui connaît, ou ce qui pense, ou ce qui perçoit, et puis ce qui est perçu, ce qui est connu, ce qui est pensé. Et donc le sujet devient ce qui est actif par rapport à ce qui est l'objet qui est passif, hein, passif par rapport à la perception ou à la pensée. Donc le sujet, c'est justement ce qui est souverain, hein, c'est le souverain. Alors que là on avait le soumis, le sujet soumis, ici on a le souverain au contraire. Donc c'est extraordinaire que ce même mot en fait signifie des choses contradictoires, complètement opposées. Et Nietzsche l'emploie dans le sens philosophique moderne, dans le sens cartésien, hein, du sujet en face de l'objet. Et c'est aussi la manière dont l'emploie Kant qui forge cette notion de sujet instituant, en disant donc c'est le sujet en tant que sujet de connaissance, donc celui qui pratique la connaissance, qui la réalise, c'est lui qui façonne le monde, et donc qui institue le monde pour lui. Hein, institue le monde pour lui, hein, le monde n'étant jamais que pour lui, pour la manière dont il l'a institué. Voilà l'origine effectivement de l'expression. Et donc, il faut pas se demander à quoi il est assujetti, sauf si on soupçonne que malgré tout, il y a quelque chose qui... que tout sujet doit tout de même être assujetti, même s'il ne le sait pas, etc. Mais ça, c'est la question après de la psychanalyse, de tout ce qui est inconscient et qui donc forcément échappe au sujet en tant qu'instituant. Hein, son inconscient, il ne l'institue pas lui-même. Donc là, il est de l'instituer par rapport à son... Donc bien sûr, là... il y a toute une... Mais Nietzsche est parfaitement conscient de ça, hein, du fait qu'on est travaillé par des forces totalement... largement inconscientes, que nous ne pouvons même pas élucider jusqu'au bout. Nous ne sommes pas transparents nous-mêmes. Mais ça viendra justement dans sa question de la liberté et du déterminisme. Ça reviendra à ce moment-là. Mais quand il parle de sujet instituant, c'est au sens kantien de sujet de la connaissance. Donc il n'a pas besoin d'introduire toute cette question dont néanmoins il est conscient. Du fait qu'on n'est jamais un sujet au sens de totalement souverain par rapport à tout ce qu'on fait.
À son époque, et par rapport à lui, quelle était la différence ou qu'est-ce qu'il faisait comme différence entre morale et éthique?
Alors à son époque, il n'y en a pas. Et même à l'heure actuelle, c'est assez variable selon les auteurs, ce qu'on fait comme différence. Alors, il y a une manière de... Bon, il n'utilise quasiment jamais éthique. Il dit morale. Il dit morale. Et le sens de morale n'est pas nécessairement péjoratif. Enfin, lui, il dénonce la plupart des morales pour leur contenu ou pour la manière dont elles se sont instituées, mais lui-même pense qu'il faut instituer une morale. Donc quand il propose de poser des nouvelles valeurs, c'est pour lui une nouvelle morale, ça ne le dérange pas que ce soit une morale. Mais simplement, ça ne le dérange pas parce qu'il ne rapproche pas morale nécessairement de contraintes ou de mœurs ou de ce qui est imposé par une société. C'est pas seulement ça pour lui une morale. Une morale, ça peut être un choix individuel, hein, mais c'est une sorte de norme de comportement qu'on peut se donner à soi-même, une sorte de ligne générale de comportement qu'on peut se donner à soi-même, et donc c'est comme ça qu'il revendique sa propre morale. Donc morale n'est pas un terme qui est devenu tellement condamné, tellement étroit, qu'on ne peut plus l'utiliser à son époque. Il l'utilise parfaitement librement. Alors maintenant, c'est justement, si on a cherché un autre terme, c'est justement parce que morale ne signifiait plus que ça, que ces normes sociales imposées, contraintes, et par rapport auxquelles on a l'impression que tout individu doit se libérer. Et que donc, si un individu, alors du coup, se construit lui-même contre la morale de sa société, on ne pourrait plus parler de morale. Et alors on a proposé de parler d'éthique. Bon, c'est la même chose, sauf que éthique vient du mot grec et morale du mot latin. C'est la même chose. Voilà, alors la construction de soi, hein, de type critique, individuel, par une recherche qui se dégage des normes sociales, actuellement on préfère l'appeler éthique. Mais en gros, c'est plutôt une convention. Voilà, c'est plutôt une convention que quelque chose de vraiment justifié par l'étymologie ou par un système, voilà, une position réelle.
Quel est le rapport de Nietzsche avec la logique? Parce que dans la description de la science que vous venez de faire, enfin de sa conception de la science, on dirait que la logique est complètement évacuée. Il est plutôt dans un genre de phénoménologie. De...
Oui, absolument. Nietzsche n'a pas un très grand intérêt pour la logique parce qu'il trouve qu'elle est extrêmement limitée. Enfin, son champ d'application est extrêmement limité. Les choses qui peuvent simplement être réglées à partir de relations logiques sont extrêmement limitées. Les relations logiques, c'est-à-dire la relation, par exemple, d'opposition, de déduction, tout ce que la logique a pu établir. Même la plupart des sciences naturelles ne s'en contentent pas. Même elles doivent aller bien au-delà de ces quelques relations ou modèles de démonstration, par exemple, hein, que propose la logique. Donc, la logique, ça serait, si vous voulez, en quelque sorte, une petite partie de la science et qui serait soumise à la même exigence d'être consciente de ses propres fondements, c'est-à-dire d'avoir été institué pour des questions de survie, hein, c'est-à-dire par exemple la non-contradiction, hein, dont on pourrait dire le principe de non-contradiction, qui est un principe vraiment fondamental de la logique, on pourrait dire qu'on en a absolument besoin, parce que si une chose est à la fois telle et son contraire, on ne peut pas décider. Si c'est à la fois bon et mauvais d'avoir un certain comportement, on ne pourra pas décider. Donc il faut qu'on ait une logique de la non-contradiction, pour pouvoir dire ce qui se contredit ne peut pas être valide en même temps, hein, ne peut pas être coexisté dans le même acte. On en a besoin au même titre que les autres enseignements de la science, les autres méthodes scientifiques. C'est une méthode parmi d'autres, voilà, et qui est de la même façon une sorte d'erreur utile, hein, erreur par rapport à ses fondements, mais en fait quelque chose de tout à fait cohérent et tout à fait utile. Oui, d'ailleurs, par rapport à la cohérence, oui, qui faisait partie de ta question, parler plutôt de cohérence que de vérité, c'est tout à fait vrai quand on considère donc l'ensemble des constructions scientifiques en elles-mêmes, donc l'ensemble des domaines scientifiques qui se répondent et se soutiennent l'un l'autre. Il faut un petit peu plus quand même que de la cohérence quand on s'interroge justement sur l'étendue de ce champ, et puis les rapports avec autre chose, parce que la science n'est pas tout quand même pour Nietzsche. Il y aura quand même un débordement de la science par la philosophie, notamment par la philosophie comme création de valeur. La création de valeur, qui est quelque chose d'absolument essentiel pour lui, ne peut pas la science ne peut pas y apporter grand chose, si ce n'est négativement, si ce n'est en nous éclairant, hein, sur certaines illusions dans lesquelles il ne faut pas tomber à nouveau en créant des valeurs. Mais
La science ne suffit pas pour ça. Et par conséquent, la cohérence non plus. Il faudra passer à autre chose que la cohérence. Et dans les valeurs, il y aura une recherche alors, d'un autre type de vérité encore. Il y aura des valeurs qui vaudront plus que d'autres. Donc il faudra chaque fois des jugements appréciateurs. Et donc chaque fois des décisions dont l'une vaut plus que l'autre. Donc dont l'une est moins erronée que l'autre, d'une certaine manière. La notion de vérité reste toujours comme ça, comme une notion très relativiste entre ce qui est plus ou moins erroné, ou plus ou moins préférable.
À propos du principe de non-contradiction, ce que tu avais dit la dernière fois à propos du dionysiaque, le dionysiaque, c'est justement un état de la nature où les choses peuvent être et une chose et leur contraire. Non, enfin, j'ai envie de dire ça rapidement.
Non, je ne crois pas que ce soit à la fois une chose et son contraire. C'est-à-dire que les contraires coexistent, mais dans différents comportements ou dans différents aspects d'un même comportement.
Oui,
c'est-à-dire que la nature, dans certains de ses aspects, est extrêmement destructrice, dans d'autres, tout à fait féconde et luxuriante. Une personne possédée par Dionysos a tantôt des comportements extrêmement fécondants et tantôt des comportements destructeurs. Donc, ce n'est pas en même temps, c'est le même rapport. Parce que c'est vrai que le principe de non-contradiction, on a parfois tendance à l'évacuer un peu vite. Mais il faut être complet, hein. Il faut dire que deux contraires ne peuvent coexister dans la même chose, au même moment et sous le même aspect.
Je ne sais pas si on va revenir sur la question morale, mais tu as mentionné que Nietzsche critique la morale kantienne parce que c'est une morale basée sur la généralisabilité des actions, de ce qu'on considère comme permis, bon, etc. Alors il propose une morale tout à fait individualiste, mais comment justement elle peut prendre sa place dans une société où il y a plusieurs individus.
Et oui, mais ça c'est une construction progressive, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut... Il faut y revenir petit à petit. Je peux pas le. Enfin, ça se dit pas en une phrase parce que il part de l'individu. Hein. Il part de l'individu. On l'a vu, quoi. Il part vraiment du fait qu'il y a une affirmation de soi, que les choses grandes ne se font jamais par les foules, elles se font toujours par l'individu, et que la base de toute création, c'est l'individu. Donc, il part de là. Après, évidemment, il reconnaît parfaitement le rôle de la société dans la formation de l'individu. Il reconnaît, par exemple, sa propre dette par rapport à toute une culture qui le nourrit et dont il est très reconnaissant que ça le nourrisse. Donc, il reconnaît parfaitement aussi sa dette sociale. Mais en même temps, il reconnaît le poids et la contrainte que représente cet héritage social. Donc, tout va être une question de composition. Et donc, il va devoir effectivement en arriver à des propositions de type politique et plus seulement éthique. C'est-à-dire que c'est plus seulement une proposition pour chacun de construire sa propre vie, il va y avoir aussi la question politique, c'est-à-dire comment je m'accorde avec les autres dans cette construction de la propre vie. Et ça, je vais consacrer un certain temps à ça, notamment à ce qu'on peut considérer comme une opposition à la démocratie, mais pourquoi il est opposé à la démocratie, c'est important de bien le comprendre. Dire pourquoi ce n'est pas ce système politique-là qui lui semble le plus intéressant. C'est pourquoi il semble que c'est un système qui est inconciliable avec une construction de l'individu. Donc il faut y revenir assez longuement parce que ça, il faut apporter plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments qui s'enchaînent pour finalement arriver quand même à une certaine conciliation. Il y a une certaine conciliation. C'est pas quelqu'un qui a dit je m'en fous complètement de cette question-là, que les autres se débrouillent. C'est pas ça non plus. Donc, mais voilà, je peux pas.
On y reviendra.
Je dois le construire progressivement.